Instant au matin. À bord du cuirassé Missouri, ancré dans la baie de Tokyo, le général MacArthur, accueilli par l'amiral Nimitz et accompagné des représentants de toutes les armées alliées, vient à peine de monter quand accoste une vedette. Cette vedette, c'est la défaite du Japon.
Un jour, dans
la signature de l'acte de reddition du Japon eut lieu dans la baie de Tokyo, à bord du cuirassé américain Missouri, qui était ancré. L'empereur Hirohito n'était pas présent. Les Japonais n'auraient jamais accepté qu'il se plie à un cérémonial aussi humiliant, s'agissant d'une reddition inconditionnelle. Donc, côté Nippon, il y avait le ministre des Affaires étrangères et le chef d'état-major de l'armée impériale. Et en face d'eux, le général américain Douglas MacArthur, ainsi que les représentants des puissances alliées. L'acte fut signé sur une petite table dressée sur le pont du navire, sous le regard de centaines de militaires au garde-à-vous et d'une foule de matelots amassés sur les coursives.
Et ce fut justement le point de départ de l'occupation du Japon par les Américains. Elle dura d'ailleurs très longtemps.
Ah oui, 7 ans, puisque ce n'est qu'en 1952 que ce pays recouvra sa souveraineté. Et encore, il dut attendre jusqu'en 1972 pour que les Américains lui rétrocèdent tout l'extrême sud de l'archipel, les îles d'Okinawa. Donc, au total, ils occupèrent ce pays pendant près de 30 ans. C'est un cas unique dans l'histoire du monde.
Alors justement, expliquez-nous comment s'est déroulée cette occupation, Bernard.
Avec le recul, le bilan de MacArthur, le fameux général, avec sa célèbre pipe en maïs, apparaît assez mitigé. Pourquoi ? Il démobilisa l'armée nippone, 6 millions d'hommes tout de même, avec succès. C'est aussi grâce à lui qu'aujourd'hui le Japon est régi par une constitution pacifiste unique au monde, dans laquelle il renonce à jamais au droit à la belligérance. S'interdit donc de faire la guerre à quiconque. Ce texte fait aussi de l'empereur le symbole de l'État et de l'unité des nations, et non plus un chef d'État de droit divin. Outre cette démocratisation du Japon, on doit à MacArthur l'octroi du droit de vote aux femmes, la légalisation des syndicats, ainsi qu'une importante réforme agraire.
Mais, parce qu'il y a un mais, revers de la médaille, il a aussi pris des décisions extrêmement contestables.
Oui, par exemple, il amnistia tous les membres de l'unité 731, l'unité de l'armée impériale d'occupation en Chine, qui était chargée de mettre au point des armes chimiques et bactériologiques. Ces militaires menèrent donc des expérimentations médicales épouvantables sur des milliers de prisonniers de guerre. Vivisection, injection de toxines et de virus, etc. Ils sont responsables de la mort de milliers d'hommes, et pourtant ils n'ont jamais été jugés en tribunal de guerre, parce que MacArthur les gracia en échange de la remise aux Américains de tout leur compte rendu d'expérience.
Et il ne fit rien non plus, il faut le signaler, contre les Yakuza, hein, la fameuse mafia nippone, qui du coup sévit toujours encore aujourd'hui.
Voilà, il la laissa prospérer. Et même, cyniquement, il se servit d'elle, pour assurer un certain contrôle social, la police civile ayant été désarmée. Pour éviter des émeutes de la faim aussi. Parce que le marché noir organisé par les Yakuza permettait d'adoucir un peu le rationnement alimentaire très strict imposé à la population. En plus, la pègre nippone a toujours été très à droite politiquement. Eh bien, MacArthur voyait d'un bon œil son anticommunisme viscéral. On était au début de la guerre froide à l'époque.
Alors aujourd'hui, Bernard, 50 000 militaires américains sont toujours stationnés au Japon. Est-ce que leur présence pose encore beaucoup de problèmes sur place ?
Oui, beaucoup. On ne compte plus les meurtres ou les viols de civils japonaises commis par des GI, des accidents d'avion ou d'hélicoptères militaires, les saccages de l'environnement ou les pollutions aux abords des bases américaines, etc. La plupart de ces soldats sont basés à Okinawa, dont nous parlions tout à l'heure.